Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le député Nicolas Mezov, député de la première circonscription. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous êtes de retour sur le territoire depuis quelques jours après avoir été présent à Paris pour la signature de l'accord complémentaire Élysée-Oudinot. Nous y reviendrons. Mais vous avez fait un détour par Washington. Alors pourquoi, qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas ?
Je suis allé à Washington tout simplement pour garder les liens que j'avais tissés il y a un peu moins d'un an lors de mon premier voyage là-bas. Il m'avait demandé, l'administration américaine, de les tenir informés de l'évolution institutionnelle de l'île. Et comme on avait fait Bougival et Élysée-Oudinot entre-temps, ça me semblait pertinent d'aller les voir. D'autant qu'on récupérait, vous savez, dans ces accords, la compétence en matière de relations internationales concernant nos propres compétences, notamment sur les questions économiques. Et comme je sais que des groupes chinois s'intéressent de près au rachat de l'usine du Nord, il me semblait important d'informer les Américains de l'influence chinoise qui pourrait s'accroître en Nouvelle-Calédonie dans les prochaines années.
Et ça les intéresse ils suivent l'actualité de la Nouvelle-Calédonie ?
Oui, alors c'est toujours très surprenant pour moi de découvrir que les Américains connaissent la Nouvelle-Calédonie et qu'ils suivent ce qu'il se passe. Alors, ce qui les inquiète énormément, c'est effectivement la menace chinoise dans le Pacifique Sud. Mais aussi la question du nickel. Vous savez, cette semaine se tient à Washington un grand sommet sur les minerais critiques pour alimenter l'industrie américaine. Et il a été question notamment du nickel. Et donc je pense que, en sachant que les Chinois arrivent pour le nickel, ça pourrait quand même réveiller l'intérêt américain dans la région.
Et vous gardez des contacts, bien sûr, vous allez continuer à les tenir au courant ?
Bien sûr, je les tiens au courant. Alors je ne dévoile pas avec qui j'ai des échanges, évidemment, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des gens du gouvernement aujourd'hui américain, oui.
Alors on va revenir sur la séquence de l'Élysée. C'est le 16 janvier quand les délégations politiques ont été invitées pour reprendre les discussions autour de l'accord de Bougival. Chacun est intervenu au début des travaux devant le président de la République. Et vous en êtes pris assez durement à l'État, aux parlementaires, à l'administration. Pourquoi est-ce que c'était utile ? Pourquoi cette mise en garde dès le début, avant même le début des discussions ?
Parce que je trouve qu'aujourd'hui, l'État ne fait pas suffisamment son travail. Quand je dis l'État, je parle effectivement du Parlement, de l'État profond, c'est-à-dire des parlementaires, des collaborateurs, de l'administration. Je trouve que les derniers référendums ont eu lieu il y a longtemps maintenant. Le dernier, c'était en 2021, c'était il y a 5 ans. Et on n'a toujours pas réussi à modifier la Constitution pour entériner les accords politiques qu'on a trouvés et qu'on n'a pas réussi non plus à ouvrir le corps électoral comme c'était prévu la dernière fois. Tout ça parce que à la fois les gouvernements successifs, mais aussi le Parlement, le Sénat et notamment l'Assemblée nationale, ont peur des violences sur place. Le problème, c'est que la peur ne résout rien et qu'aujourd'hui, ça nous entraîne dans une crise économique et sociale sans précédent. Donc moi j'ai tenu à dire au président de la République, et moi je fais partie de ceux qui aiment lui dire les choses en face, je lui ai dit que ça commençait à suffire, que nous on avait suffisamment attendu comme ça et que désormais l'État devait prendre ses responsabilités. Enfin pardon, mais nous, moi j'ai signé 3 accords, hein. J'ai signé Bougival, Élysée-Oudinot et l'accord de relance économique. Enfin on a fait des concessions énormes, je trouve que nous on a fait notre part du travail. Et si c'était pour nous entraîner encore plus loin que ce qu'on a déjà concédé, pour faire plaisir aux absents du FLNKS, il ne fallait pas compter sur nous.
Voilà. Il vous a entendu ?
Oui, la preuve en est, puisque l'accord Élysée-Oudinot n'est que finalement le prolongement de l'accord de Bougival à travers des éclaircissements sur l'identité kanak, l'identité calédonienne, les provinces et la question de l'autodétermination. Donc on voit qu'on n'est pas sorti de Bougival, c'est ça la grande victoire de cette séquence à Paris, c'est-à-dire qu'on est resté dans le cadre de Bougival. On n'a pas fait de concession en plus que ce qu'on avait déjà signé la dernière fois. Donc je pense que de temps en temps, c'est bien de taper du poing sur la table. Oui.
Et puis un petit mot quand même sur la petite phrase que vous avez dite sur Philippe Gomez devant le président de la République, devant les délégations. Vous avez déclaré que c'est un honneur pour un député de la nation de s'exprimer après une personne condamnée à de l'inéligibilité. Mais j'imagine que c'est pour avoir un représentant du FLNKS à table. C'était utile de dire ce genre de choses ?
Non, mais là aussi, moi, je dis les choses en face. C'est-à-dire que je ne comprends pas qu'il y ait des personnes qui étaient condamnées par la justice qui sont invitées à des moments aussi importants de notre histoire du pays. Et la deuxième chose, c'était aussi ma manière de dire à Philippe Gomez qu'on en avait marre qu'il soit le porte-parole des indépendantistes les plus radicaux autour de la table. Enfin, je veux bien que Calédonie Ensemble soit un parti non-indépendantiste modéré. L'électorat de Calédonie Ensemble, je le connais bien. Les électeurs de Calédonie Ensemble, je les connais bien. Ce ne sont pas des indépendantistes. Et pourtant, Philippe Gomez tient un discours qui est beaucoup plus indépendantiste que l'Unipalika lorsqu'on est en négociation. Donc c'était à la fois un message pour Emmanuel Macron et pour Philippe Gomez.
Mais il n'a pas signé l'accord Élysée-Oudinot. Vous l'avez vexé ?
Non, mais je pense qu'il ne l'a pas signé tout simplement parce que pour lui, ça n'allait pas assez loin. Il en voulait plus. Philippe Gomez veut un État associé. Il voudrait au moins DEVA. C'est-à-dire le transfert des compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie. Donc non, ça ne lui allait pas, c'est pour ça qu'il ne l'a pas signé.
Alors le FLNKS, lui, n'était pas autour de la table. L'UC a confirmé depuis, lors de son congrès, son rejet de Bougival et son rejet d'Élysée-Oudinot. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut faire sans eux ? Faut continuer à avancer malgré leur opposition ?
Mais nous, on ne fait pas sans eux, c'est eux qui font sans nous. Nous, on est là, on avance, on discute, on les invite, ils ne viennent pas. Après, ils veulent faire une visio une fois qu'on est tous là-bas. Enfin, ça fait combien de temps que le FLNKS joue à la chaise vide ? Donc, écoutez, il faut qu'on avance. Regardez l'état du pays, franchement. Une crise économique et sociale sans précédent. On n'a pas aujourd'hui le luxe et le confort d'attendre. Et moi, c'est ça que je reproche aujourd'hui à l'Union calédonienne. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à sacrifier leur propre population pour essayer d'obtenir l'indépendance coûte que coûte. Enfin, pardon, mais aujourd'hui, ceux qui souffrent peut-être le plus encore dans la population de la crise économique et sociale, c'est certainement l'électorat de l'Union calédonienne. Et ils sont prêts à les sacrifier pour leur doctrine et pour leur idéologie. Donc à un moment donné, stop. Il faut dire stop, parce qu'aujourd'hui, ce qui compte pour les Calédoniens, c'est de retrouver des perspectives, de la stabilité, de l'investissement, de la consommation, et qu'on puisse reprendre une vie normale où tout le monde regagne un minimum d'argent et puisse vivre dignement. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, oui, effectivement, il faut qu'on avance sans le FLNKS. S'ils ne veulent pas venir, tant pis pour eux.
Alors, ils ont rendu public l'accord de Kanaky qu'ils opposent souvent aux accords que vous négociez et que vous signez. L'accord de Kanaky a été publié. Est-ce que vous l'avez lu ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et comment vous expliquez que ça sorte comme ça d'un seul coup
Oui, bien sûr, je l'ai lu, mais alors c'est très vite lu, parce qu'en fait, il n'y a rien.
Il y a 10 pages.
Le problème du projet du FLNK, c'est que c'est de l'idéologie, c'est de la doctrine, il n'y a rien de concret. On ne sait pas comment ils règlent les problèmes économiques, sociaux, d'éducation, de santé. Tout ce qu'on a traité dans Bougival, ils ne le traitent pas. Ils ne parlent que de décolonisation, de dignité, de liberté, mais on voit très bien qu'il n'y a pas de projet concret derrière, ça reste des grandes idées. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est même pas le FLNKS qui le présente, ce projet de Kanaky. C'est NC Première qui fait le service à présent du FLNKS sans que le FLNKS n'ait demandé quoi que ce soit. Un jour, on découvre que NC Première a l'accord de Kanaky. Moi, vous savez quoi ? Ils ne nous l'ont jamais présenté, l'accord de Kanaky, le FLNKS, en réunion, en discussion, ni à Bougival, ni à Deva, ni à Élysée, ni à Oudinot. Et là, c'est NC Première avec ses journalistes qui sort sur les réseaux et qui dit « Vous savez quoi ? Nous, on a le projet de Kanaky. Attendez, on va vous l'expliquer. » Donc moi, je suis très content de voir que NC Première est devenue l'agence de communication du FLNKS.
L'audiovisuel public est en grande question en métropole aussi. Hein. Vous avez peut-être suivi la commission d'enquête. Pour rester chez les indépendantistes, il paraît que Paul Néoutine est opposé à l'accord de Bougival. Là aussi, il l'aurait dit lors d'une séance de l'Assemblée de la Province Nord. Ça vous inquiète que lui qui est le créateur, le fondateur, le représentant de l'UNI émettent des réserves ?
J'ai deux choses à dire. La première chose, c'est que si Paul Néoutine était en désaccord avec quoi que ce soit, il aurait fallu qu'il vienne le dire à Paris lors des nombreuses négociations qu'on a maintenant depuis des années, parce que ça fait quelques années déjà que Paul Néoutine boycotte toutes les discussions avec l'État. Et point numéro 2, la dernière fois que Paul Néoutine était en désaccord avec une proposition de l'État et des autres partis calédoniens, c'était le pacte nickel. Hein, parce que finalement, la Nouvelle-Calédonie, vous savez, n'avait pas besoin de l'État sur le nickel et que c'était une compétence de la Nouvelle-Calédonie uniquement. Depuis, vous savez quoi, l'usine du Nord a fermé, la SMSP est en difficulté et la NMC sollicite l'aide de l'État. Alors vous savez quoi, Paul Néoutine, en matière de vision, on a fait mieux.
Sur le fond de l'accord complémentaire réalisé, nous vous en disiez un mot, mais qu'est-ce qu'il faut en retenir vraiment ? Encore, il y a eu des réunions publiques qui ont été faites ici ou là par les différents partis, les différents signataires. Mais quelles sont vraiment les modifications importantes, ou les précisions par rapport à Bougival ? Notamment pour l'autodétermination, le transfert des compétences régaliennes, on est revenu un peu sur le dispositif, on l'a détaillé ?
Non, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, on est allé éclairer les choses. C'est-à-dire, on est venu préciser ce qu'on avait déjà signé à Bougival. Sur l'autodétermination, finalement, on explique que l'exercice du droit à l'autodétermination, maintenant, est transformé de référendum à la possibilité qu'a le Congrès de choisir le transfert d'une compétence régalienne. On est venu dire que voilà, l'exercice du droit à l'autodétermination s'exerçait comme ça officiellement désormais. Sur les provinces, on est revenu pour expliquer quels étaient l'échelon privilégié pour l'attractivité économique, notamment la fiscalité. Sur l'identité kanak et l'identité calédonienne, on a précisé que l'identité kanak était quelque chose d'important à reconnaître en Nouvelle-Calédonie, mais qu'elle s'inscrivait dans une identité encore plus large qui était finalement qu'on était tous des Calédoniens, quelle que soit notre communauté d'appartenance. Donc c'est tout ça qu'on est venu préciser. Et je trouve qu'il y a un autre point intéressant au-delà de l'institutionnel qui a été avancé à Élisée Oudinot, c'est toute la question sur la relance économique et sociale où là, on a eu, et je sais que vous avez des questions peut-être sur le sujet après, mais on a signé le fait qu'on ne rembourse plus les prêts qui ont été octroyés à la Nouvelle-Calédonie. J'entendais tout à l'heure Christopher Gigès qui disait que grâce à ça, on allait pouvoir aider enfin le Medipôle et tout le système de santé de manière générale. Qu'on allait travailler sur ce contrat de désendettement à la fin de l'année pour transformer les prêts en subventions. Qu'il allait avoir une aide de 15 milliards au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et que les régimes sociaux retraite notamment, serait sauvé par l'État cette année. Et ensuite, on a bien évidemment parlé du soutien aux usines pour sauver notamment l'usine de la SLN et PRNC. Donc voilà, on voit qu'on a eu aussi à cœur, nous les élus calédoniens, contre l'État, il faut le dire, des gros moments de tension contre l'État, on s'est mis tous ensemble, les signataires de Élisée Oudinot, pour dire, nous maintenant, on a besoin que l'État prenne ses responsabilités pour faire en sorte que la Calédonie ne sombre pas encore plus dans une crise économique et sociale.
Mais justement, vous avez l'impression que là, l'État, c'est Bercy, souvent on accusait Bercy de faire barrage, l'État a pris conscience de la nécessité de relancer économiquement la Nouvelle-Calédonie avant de régler le problème institutionnel, peut-être ?
Pris conscience, certainement, mais vous savez ce qu'on a fait ? En fait, une fois qu'on a fait signer la partie institutionnelle dont on parle sur l'autodétermination, l'identité calédonienne et les provinces, l'État voulait vite faire la photo en disant « Venez, on va tous à l'Élysée en car, là, montez tous dans le bus, on va à l'Élysée, on se met autour d'Emmanuel Macron et ses lunettes de soleil, et on dit qu'on a signé un super accord. » Et vous savez ce qu'on a dit ? Mais vraiment tout confondu, hein, vraiment de l'uni au loyaliste, on a dit « Non, on bouge pas. On ne sort pas de là et on ne signera pas l'accord sur lequel pourtant on avait trouvé un équilibre tant qu'on n'a pas des engagements sur la partie économique, tant qu'on n'a pas des engagements sur le sauvetage des régimes sociaux, tant qu'on n'a pas d'engagement sur le désendettement de la Nouvelle-Calédonie, tant qu'on n'a pas d'engagement sur la question du nickel, tant qu'on n'a pas d'engagement sur le sauvetage de nos institutions. Et donc, c'est comme ça qu'après 24 heures de plus, et ça nous a pris quand même, on est arrivé à cet accord de relance économique qui a été signé cette fois au ministère des Outre-mer avec Naïma Moutchou.
Et dans ce contexte, l'adoption du budget de l'État, c'est aussi une bonne nouvelle et c'était indispensable pour
oui,
nous,
alors,
notamment pour nous.
Maintenant, je vais vous dire, il y avait deux étapes pour qu'on touche l'argent qui nous est promis. La première, c'était effectivement que le budget de l'État soit adopté, mais là-dessus, moi, je n'avais pas d'inquiétude parce que je savais qu'il y avait un deal de préparer entre Sébastien Lecornu et le Parti Socialiste en utilisant un 49-3 et que les socialistes ne censuraient pas derrière. Mais maintenant, la deuxième étape pour toucher cet argent, c'est qu'on ait dans la Constitution les accords de voter par le Parlement. C'est-à-dire que si la Calédonie ne signe pas les accords de stabilité politique, eh bien derrière, on n'aura pas l'argent, parce que l'État ne va pas investir à fond perdu dans un tonneau des Danaïdes sans visibilité politique.
Alors justement, on en est où ? Cette question du calendrier, on est obligé de la poser, et elle inquiète quand même un peu. Est-ce que le calendrier, qui est très contraint, va pouvoir être tenu ? Donc ça doit passer, la réforme constitutionnelle doit passer le 24 février, je crois, au Sénat, alors, puis à l'Assemblée, voilà. Puis réunion du Congrès de Versailles. Est-ce que tout ça, vous pensez que ça va pouvoir être réalisé normalement? Est-ce qu'il y aura une majorité d'abord dans les deux assemblées, puis une majorité de 3/5 au Congrès? C'est beaucoup d'obstacles.
Voilà, alors dit comme ça, ça a l'air le parcours du combattant. Mais oui, effectivement, il faut déjà expliquer aux Calédoniens qui nous écoutent que les accords politiques que l'on signe n'ont qu'une portée politique. Et donc, pour qu'ils aient une portée juridique, pour qu'ils s'appliquent, il faut les inscrire dans la Constitution de la République française en remplacement de l'accord Nouméa. La modification de la Constitution de la République française, c'est effectivement un parcours du combattant quelque part. Ça commence le 24 février, comme vous l'avez dit, au Sénat. Là, on a quand même une majorité qui est normalement confortable avec la droite et le centre.
Même si le groupe socialiste a émis des réserves d'ores et déjà.
Alors, il va y avoir une bataille certainement d'amendements. Les socialistes vont vouloir monnayer leur soutien à ce projet de loi constitutionnelle par des amendements soufflés par Alain Krisnart et Philippe Gomez. Nous, si on joue à ça, on va déposer des amendements derrière qui vont dans notre sens avec la droite et on verra bien qui l'emporte, sachant qu'on a, nous, normalement, une plus grande majorité au Sénat. Donc le mieux, en fait, ce que je propose, c'est que personne ne dépose d'amendement et que tout le monde respecte l'équilibre qui a été trouvé lors des accords. C'est ça qu'on va dire au groupe du Sénat lorsqu'on sera auditionné, Sonia Baquet, Gilles Brial et moi, par ceux qui doivent voter le texte. Donc une fois que ça passe au Sénat, il y a une pause d'à peu près un mois, parce que ça va être les élections municipales et le Parlement ferme. Et donc ça se retrouve fin mars à l'Assemblée nationale. Donc là, c'est pour ma pomme. Et c'est beaucoup plus difficile à l'Assemblée nationale, comme vous le savez, parce qu'il n'y a pas de majorité. Et donc là, il va falloir aller du Parti socialiste à Éric Ciotti, voire même au Rassemblement national. Donc aujourd'hui, on est en négociation avec le Parti socialiste, mais on essaie de leur dire que les amendements qu'ils déposent sont pas recevables pour nous. Et quant à Marine Le Pen, il faut qu'on ait une discussion sérieuse avec elle, parce que, comme vous le savez, sa position est plutôt ambiguë sur la Nouvelle-Calédonie. Donc nous, on souhaite, malgré ces relais locaux qui ne nous aident pas, que le Rassemblement national au niveau métropolitain puisse comprendre l'intérêt pour l'économie de la Nouvelle-Calédonie de ces accords. Voilà. Et donc, on doit entrer en discussion dans les semaines qui viennent.
Vous avez déjà des contacts, vous avez déjà un peu testé pour voir comment ça réagissait, notamment du côté du Rassemblement national. LFI, on imagine que c'est non de toute façon. Que
non, mais LFI, il ne faut rien attendre. Vous savez, notre temps, il est précieux, on ne va pas le gaspiller. Le Rassemblement national, on a toujours eu des contacts avec eux, que ce soit avec Sébastien Chenu, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, que ce soit avec Thomas Gillet, qui est le responsable des textes outre-mer à l'Assemblée. Donc, on a les liens avec le Rassemblement national. Et la dernière fois, Thomas Gillet, en groupe de contact sur la Nouvelle-Calédonie, a dit devant l'ensemble des groupes que pour l'instant, le Rassemblement national n'avait pas arrêté sa position. Donc, on voit bien qu'eux aussi veulent rentrer en discussion. Et donc, on attend de voir à quel moment est le plus opportun, certainement après le Sénat, pour rentrer en discussion avec eux. Ouais.
Et dans le contexte politique national, que vous connaissez bien, qui est quand même un peu tendu, un peu agité pour l'instant, vous pensez que le président de la République sera en mesure de réunir un congrès de Versailles en avril-mai? C'est ce qui est prévu dans le calendrier aujourd'hui.
Mais vous voyez, tout à l'heure, vous m'avez demandé pourquoi vous avez été aussi sévère avec l'État. Ben justement, pour lui dire quel que soit ton calendrier et toi tes actualités au niveau métropolitain, maintenant, il faut que tu prennes tes responsabilités, que tu convoques le congrès de Versailles. Parce que moi, je ne veux pas savoir, moi, dissolution, pas dissolution, censure du gouvernement, pas censure du gouvernement, Groenland, pas Groenland, Ukraine, pas Ukraine. Moi, c'est la Nouvelle-Calédonie qui compte. Et pardon, mais ça fait 5 ans qu'on attend. Et à chaque fois qu'il y a eu des textes présentés, Elisabeth Noir, à l'Assemblée nationale sur la Nouvelle-Calédonie, ils ont été votés. Que ça soit le dégel du corps électoral, ou que ce soit le report des élections provinciales. C'est juste que derrière, le gouvernement ne suit pas en ne convoquant pas le congrès de Versailles. Mais moi, les textes qui sont arrivés à l'Assemblée nationale, je les ai tous fait voter. Donc juste qu'ils convoquent le congrès de Versailles. Voilà, tout simplement. Et on votera.
Mais cette réforme constitutionnelle prévoit non pas un dégel, mais une ouverture du corps électoral pour les élections provinciales. Est-ce que l'État, justement, ne va pas avoir peur de réouvrir ce dossier ultra sensible, entre guillemets?
Mais vous savez, à un moment donné, je vais vous dire, si l'État, donc la France, quelque part, pardon, hein, a peur de redonner du droit de vote à des citoyens français en France, il va falloir qu'on se pose des questions sur la France elle-même. Pardon de le dire comme ça. Mais vous savez quoi? Pour un pays, un territoire qui a choisi 3 fois de rester français malgré l'exclusion de 20 000 non-indépendantistes, qu'on a quand même gagné 5 ans plus tard, on n'y arrive pas. Mais il faut qu'ils nous le disent, qu'ils ne nous considèrent pas comme des Français alors. Parce que c'est ça le risque. Non mais vous vous rendez compte de quoi on parle? Ça me rend complètement dingue cette affaire. C'est-à-dire que l'État a peur d'assumer le fait que la Calédonie ait choisi de rester française. Voilà. Donc moi ça me pose vraiment un problème.
Ce qui doit aussi vous causer un problème, c'est que l'Assemblée nationale va examiner très prochainement une proposition de loi ouvrant le droit de vote aux élections locales.
Vous avez décidé de me faire mal aujourd'hui, Elisabeth Noir.
Aux étrangers non européens.
Vous avez décidé de m'énerver aujourd'hui. Non, mais oui, enfin, c'est le groupe écologiste à l'Assemblée nationale qui a déposé une proposition de loi pour autoriser les étrangers hors Union européenne à voter aux élections locales en France. Super! Donc aujourd'hui, moi j'ai une Assemblée nationale qui refuse à des Français de voter en France, mais qui autorise des étrangers hors Europe à voter en France. Écoutez, moi je pense que là, on frôle le ridicule, on frôle le déclin. Mais heureusement, vous savez, mes amis députés qui sont venus en Nouvelle-Calédonie, vous savez, la délégation de 9 députés qui est venue il y a quelques mois de ça, quelques semaines, et ben ils en ont profité pour dire justement en commission... mais dis donc, le groupe écologiste, vous soutenez le droit de vote des étrangers, mais par contre, les Français en Nouvelle-Calédonie, eux, ils n'ont pas le droit. Et donc, je ne pense pas que, mine de rien, à la fin, cette loi recueille la majorité à l'Assemblée nationale.
Et ça permettra peut-être de parler quand même de la Nouvelle-Calédonie et de...
Comptez sur moi.
Du gel du corps électoral. Je vais continuer à vous énerver avec la publication cette semaine du rapport de la... Commission consultative des droits de l'homme, on n'en avait pas vraiment entendu parler jusque-là de cette commission, sur la gestion de la crise 2024 en Nouvelle-Calédonie, un rapport très, très sévère, on va dire, qui dénonce une gestion essentiellement répressive de la part de l'État. C'est un rapport qui a beaucoup choqué en Nouvelle-Calédonie. Vous, ça vous a choqué?
Mais ils connaissent quoi, ces mecs-là?
Non, mais c'est... Ils vous ont pas entendu, vous avez pas répondu à
leur sollicitation. Non, mais parce que je sais que c'est un nid d'extrême gauche, ça. On sait très bien, enfin, tout... Toute personne sensibilisée à ce qu'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme sait que c'est un repère d'éléphiste. Voilà. Donc moi, je ne voulais pas associer mon nom à un rapport qui aurait dit la même chose. Et donc, tout le monde aurait dit, mais dis donc, mais il a dit quoi Nicolas Mézorf dans ce rapport pour que ça soit autant à charge? Moi, par contre, ce que j'ai apprécié dans cette affaire, c'est que notre Ligue des droits de l'homme à nous, que j'ai souvent critiqué, je l'admets, mais là, je fais mon mea culpa, a été... extraordinairement clair sur ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Et moi, je vais vous dire un truc. Quand je vois la Ligue des droits de l'homme nationale venir nous dire ce que nous, on a vécu, mais j'ai envie de dire, mais ça, c'est colonial. Voilà une position colonialiste sur la Nouvelle-Calédonie. Moi, ce qui compte, c'est ce que nous dit notre Ligue des droits de l'homme à nous, les Calédoniens qui ont vécu les émeutes, les Calédoniens qui ont vécu les blocages, les maisons brûlées, les entreprises brûlées, les mandoriens bloqués, les agressions à caractère raciste. Voilà ce que dit la Ligue des droits de l'homme locale. Donc bravo à eux et merci d'avoir remis en place ces pseudo-experts de 22 000 kilomètres qui ne connaissent rien à notre pays.
Mais ça prouve quand même que les indépendantistes ont encore des super réseaux en métropole. Est-ce que nous, on en a assez? Est-ce que les partisans de la France ne doivent pas également travailler davantage sur le lobbying?
Si, je pense que c'est un sujet sur lequel nous, on peut et on doit s'améliorer. Après, vous savez, c'est même en métropole, c'est vraiment des milieux qui sont très gauchisants. C'est tenu par la gauche et l'extrême gauche. Et c'est des endroits où la droite n'a finalement que très peu d'entrée. C'est un peu finalement comme France Télévisions. Et donc, c'est vrai que historiquement, ce n'est pas des secteurs où on est très présent. Mais vous avez raison, on peut, grâce aujourd'hui à l'explosion des médias de droite en France, privés, en profiter pour essayer de rétablir les choses. Et je note d'ailleurs que des télévisions comme CNews font régulièrement le travail pour nous défendre.
Dans l'actualité, il y a aussi un fait qui vous a fait réagir cette semaine, c'est... La comparution de l'incendiaire de la maison de la famille Bull à Thiot et les propos qu'il a tenus, ça prouve qu'il y a encore une tension sur le foncier, une tension sur l'exclusion des familles européennes, notamment sur la côte Est.
Vous savez ce qu'il a dit, l'incendiaire de la maison des Bull à Thiot? Il a dit « je ne regrette pas ». Parce qu'il considère que ce qu'il a fait est bien. C'est-à-dire qu'il considère que brûler une maison de blanc, c'est bien. Parce que ça les a fait partir de Thiot. Et ça en dit long sur, l'état de notre pays, deux, l'état de la radicalisation de l'indépendantisme radical dans notre pays, et trois, ça en dit long sur ce qui s'est passé sur la côte Est depuis 40 ans. Vous savez, du coup, je me suis dit, mais on a la chance, en Nouvelle-Calédonie, de faire un recensement ethnique. Je suis allé sur le site de l'ISEE, et j'ai regardé l'évolution ethnique des communes de la côte Est depuis 1976. On a perdu sur la côte Est entre les Wallisiens et les Blancs, plus de 80% de notre population. C'est une épuration ethnique. C'est un exode forcé des populations non-kanaks de la côte Est. Pointe-Imier, Touo, Wailou, Kanala, Tio évidemment, Ponériouin. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste sur la côte Est? Plus rien. Je dis toujours, Dalida est allée chanter à Tio. Johnny Hallyday est allé chanter à Tio. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse retrouver une Dalida ou un Johnny Hallyday qui aille chanter à Tio. Et ça démontre que c'est ça le projet de l'indépendantisme radical. Je dis bien radical parce que je ne mélange pas les modérés de l'UNI et les radicaux de l'autre côté. Le projet de l'indépendantisme radical, c'est de faire le vide autour d'eux, quel que soit l'impact pour la population. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi sur la côte Est, il reste quoi? On ferme même la dernière des banques à Pointe-Imier. Il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de dispensaires, il n'y a plus de services publics. Il y a des mines de nickel, vous savez quoi, qu'on bloque, qu'on empêche de tourner convenablement. Mais il n'y aura plus rien. Ça finira dans la pauvreté la plus extrême, la côte Est. Voilà. Et on dira qu'on ne fait rien pour eux. C'est faux.
Est-ce que le processus peut être inversé?
Ah ben, sinon, je ne serais pas là. Non, mais déjà, ça... Je trouve que les gens me disent « Ouais, mais tu dis ça, mais du coup, qu'est-ce que tu proposes ?» Mais le dire déjà...
Le dénoncer, que ça soit
public... Le dénoncer, mais pardon, mais qui a déjà dit que la côte Est avait subi une épuration ethnique? Qui l'a dit publiquement déjà? Personne, je suis le premier à le dire. Pourquoi? Mais parce que c'est la vérité, il faut dire la vérité. Parce que ça ne sert à rien de faire la politique de l'autruche, mettre la tête dans le sable, pour en faire croire que tout va bien. Parce que c'est comme ça que finalement, le déclin, il s'aggrave d'année en année, c'est qu'on ne dénonce pas les choses qui vont mal. Voilà. Et moi, je refuse que finalement, ce qu'a connu la côte Est, quelque part le Nord, dans son ensemble, le vive un jour, que la côte Ouest de la Brousse le vive un jour, et que Nouméa, le Grand Nouméa, le vive un jour. Voilà. Parce que moi, c'est ça ma crainte aujourd'hui. Et on voit bien que cet exode forcé des non-kanaks de la côte Est a conduit derrière un exode plus massif de toutes les populations de la côte Est, qui se sont retrouvées, beaucoup, finalement, dans Nouméa et dans le Grand Nouméa. Voilà. Parce qu'on avait tué la diversification économique dans ces zones les plus reculées. Et donc, il faut le dénoncer, oui, il faut le dire, parce que comme ça met la pression à ceux qui pensent qu'ils peuvent continuer leur pression à bas bruit. Voilà. Parce que tout le monde dit « Oui, Nicolas, tu exagères, tu jettes de l'huile sur le feu, il faut que tout le monde s'aime et se fasse des bisous sur la bouche. » Oui, d'accord, moi je peux dire qu'il faut que tout le monde s'aime. Mais à la fin, le résultat concret, vous savez quoi? C'est que la famille Bull, elle ne vit plus à Tio. Voilà. On peut toujours tous s'aimer, mais on s'aimait tous il y a 10 ans, il y avait la famille Bull à Tio. On s'aime toujours tous aujourd'hui, mais il n'y a plus la famille Bull à Tio. C'est ça le seul résultat concret que l'on constate.
Des réflexions qui vont peut-être avoir leur place dans la campagne municipale, puisqu'il y a l'ensemble des communes de Calédonie, celles de la côte Est également, qui vont devoir renouveler leur conseil. Je voudrais avoir votre avis sur est-ce que cette campagne municipale, ces élections municipales, qui ont lieu jusqu'à le 22 mars, est-ce que vous ne craignez pas qu'elles aient des conséquences aussi sur l'unité des partisans de la France? On a vu que pendant les discussions, ça se passait bien, vous parliez d'une seule voix, etc. Mais quand on voit la donne dans plusieurs communes, est-ce que ce n'est pas un danger quand même?
C'est ma grande inquiétude. C'est ma grande inquiétude. Et moi, je travaille tous les jours avec les différents états-majors à faire en sorte que, quel que soit le résultat de ces élections municipales, que les campagnes se passent bien et que derrière, on puisse tous se retrouver pour le bien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Voilà, je le dis clairement. Moi, évidemment, je soutiens les candidats loyalistes partout. Nina Julier, Cynthia Jean, Antoine Romain, Liva Héroy... j'en oublie certainement, mais en tout cas, tous les candidats loyalistes, je les soutiens évidemment, je fais campagne pour eux. Mais je veux surtout qu'entre non-indépendantistes, les campagnes soient les plus propres possibles. Et que ça, derrière, n'inflige pas trop de dégâts pour qu'on soit capable de se retrouver après. Parce que ce qui va compter après ces élections municipales, c'est... notre propension à défendre la Calédonie française et à défendre, au-delà de la Calédonie française, la Calédonie démocratique. Voilà. Et j'ai très peur de ça parce qu'une campagne laisse toujours des traces. Parce que c'est un engagement personnel, c'est un engagement familial, amical, on s'y prend. Et parfois, les mots peuvent dépasser les pensées. Et je sais, moi, j'ai vécu des campagnes municipales et provinciales. Et derrière, c'est très difficile à réparer. Voilà. Donc moi, j'engage l'ensemble des non-indépendantistes en lice à respecter les gens qui sont en face d'eux, de la même famille politique. Voilà, c'est pour moi le message vraiment le plus important que je souhaite délivrer. Ensuite, bien évidemment, j'appelle tous les électeurs à voter clairement pour des listes non-indépendantistes. Pourquoi ? Et notamment les listes loyalistes, parce que celles-là, elles sont garanties d'être 100% non-indépendantistes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'une élection municipale, c'est évidemment la gestion de la commune, mais c'est aussi derrière les élections des sénateurs. Parce que ce sont les conseillers municipaux qui votent pour les sénatoriales. Et vous savez quoi, Elisabeth Noir ? J'aurais aimé avoir à mes côtés, dans ce moment-là de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, des sénateurs qui tiennent la route et qui défendent les mêmes causes que moi.
Voilà. C'est pas le cas.
Non, je me sens seul là. Donc, si l'électorat non indépendantiste pouvait voter pour des listes dont ils sont sûrs, comme celle loyaliste, que c'est 100% non indépendantiste, pour que la prochaine fois, on ait des vrais sénateurs non indépendantistes, ça m'arrangerait. Parce qu'on voit très bien le rôle qu'a le Parlement sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Que ce soit à travers de l'accord de Nouméa aujourd'hui ou que ce soit à travers l'accord de Bougival demain. Parce que l'accord de Bougival demain, ça sera quand même dans la Constitution de la République française, parce que Bougival, c'est dans la France. Donc si on voudra faire évoluer les choses d'un côté ou de l'autre, ou éviter qu'elles évoluent d'ailleurs, il faudra des représentants au Parlement qui tiennent la route. Et on voit très bien le rôle particulier qu'a le Sénat. Parce que les réformes constitutionnelles débutent toujours par le Sénat, c'est la règle. D'abord, on commence par le Sénat. Et c'est le Sénat qui donne le ton sur la réforme constitutionnelle. Donc, il faut des sénateurs qui tiennent la route. Voilà. Donc, moi, s'il y avait eu deux sénateurs qui disaient « Écoutez, les gars, les amendements des socialistes, on n'en veut pas parce que ça va beaucoup trop loin », ça m'aurait évité d'aller faire un aller-retour à Paris pour aller voir des sénateurs alors que je suis député. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les Calédoniens, votez bien à ces élections municipales, votez les listes loyalistes.
Le message est passé, Nicolas Mezoff, député de la première circonscription. Merci d'accepter notre invitation ce midi.
Merci beaucoup.